cela ont l'air de fonctionner. Bonsoir à tous et merci d'être restés jusqu'à cette heure un peu tardive pour écouter les conclusions. Donc, c'est un honneur redoutable de faire des conclusions. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne voudrais pas me répéter. Le risque est limité parce que j'ai le rôle de l'économiste de service pour conclure cette session. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien ou géographe. Donc voilà, vous allez avoir le regard d'un économiste qui a été un peu chahuté parce que le mot economicus tout à l'heure a été... le consommateur rationnel ou automatique a été un peu charcuté. Alors nous, c'est gênant parce que quand, comme l'économie, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande, et si vous supprimez la demande et vous dites qu'elle n'est pas rationnelle, il y a un sujet. Mais bon, j'ai des réponses à ça, mais on va le voir tout à l'heure. Donc je vous propose de conclure en abordant la question de ce que seront les systèmes électriques de demain et de la façon dont on le voit avec une maille territoriale. Donc je suis effectivement directeur de l'économie et de la prospective d'Enedis. Et donc, à ce titre-là, j'ai pu contribuer au choix et à la détermination à la naissance de la chaire RICET. Et je voudrais dire que la chaire RICET n'est pas la seule dans laquelle Enedis s'est engagée. On l'a fait en tout état de cause pour respecter un équilibre des territoires. Alors là, j'ai une petite carte de France qui montre les endroits où nous accompagnons des chaires. Et il n'y en avait pas à Bordeaux, en tout cas pas chez nous. Et donc l'idée était d'en créer une. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la chaire, et Christophe, c'est important aussi, c'est que la chaire, dans le domaine que vous traitez ici, n'existe nulle part ailleurs, c'est unique, et on y tient profondément. Et l'idée de ce comité des partenariats national, il est fait pour éviter qu'il y ait doublons, et que quand quelque chose de bien se fait quelque part, et ça, on puisse le partager avec d'autres. C'est un peu l'idée de la péréquation à l'académique qu'on essaie de mettre en place et qui a prévalu à cette chaire. Moi, si je peux me permettre de donner un conseil en conclusion, c'est faites-le savoir. Donc, nous, on va le faire savoir. Et faites-le savoir. Utilisez les moyens modernes que je sais qu'il y a des projets pour le faire. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Et maintenant que la chaire a ce matériau disponible, il faut le faire. Donc, mon autre casquette, c'est celle d'économiste international. Donc, je suis président de l'Association internationale des économistes de l'énergie. C'est une grande institution qui a pour vocation de disséminer la science académique appliquée à l'économie de l'énergie dans le monde avec plusieurs supports. D'abord, notre représentation, on est dans 110 pays, le siège est aux États-Unis, et donc on est fort de 4000 membres, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup au sens où ce sont des membres un peu experts quand même, qui sont des accompagnants ou des conseillers en politique publique. Et donc, ce sont des Jacques Percebois qui sont déjà venus ici, des Jean-Marie Chevalier, des Patrick Riquier, ces économistes de renom qui font la politique publique. Et il y a des filiales en France, et il y a une filiale française que j'ai le plaisir aussi de présider, l'Association française des économistes de l'énergie, qui tient une conférence ce soir à laquelle j'ai dû m'absenter, sur l'AREM qui a 10 ans aujourd'hui. Et le débat portera sur ce que ce devrait être plus tard. Enfin, donc voilà, l'IAE, notre présence nationale. On organise nos livrables, ce sont des conférences dans beaucoup de pays, dans beaucoup de géographies, avec des thématiques qui sont abordées, qui sont très, très locales, et qui nous permettent de faire un peu ce que je propose de faire en France aussi pour la chaire RICET, c'est de faire du benchmark et de généraliser les bonnes pratiques au maximum. Donc notre livrable, ce sont des conférences et des mises en réseau, et c'est aussi des publications à caractère académique. Donc il y a trois publications phares, c'est des publications dans des revues à comité de lecture. Donc The Energy Journal, Economics of Energy and Environmental Policy et l'Energy Forum, dans lequel j'espère que la chaire aussi pourra intervenir et faire des publications. On les attend et ce sera avec plaisir qu'on les communiquera. Voilà, donc je reviens à ma question. Donc, c'est avec ces deux casquettes que je ne vais pas me priver d'utiliser certains commentaires. Le premier point que je voulais citer, c'est le monde de demain est incertain. est incertain, mais il évolue dans une structure qu'on a l'habitude de tronçonner dans le monde de l'électricité, après le unbundling, entre transport, distribution, production et approvisionnement. Enedis est un élément de la chaîne, au milieu. Simplement, il y a quelques éléments dont on parle beaucoup dans la transition énergétique, comme le véhicule électrique qui a été cité aujourd'hui, les énergies renouvelables qui caractérisent la transition énergétique. Le stockage, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, comment stocker l'énergie. On a parlé des consommateurs économiques ou pas, enfin, en tout cas intelligents, qui vont investir dans l'efficacité énergétique ou non, et qui vont avoir besoin pour investir et pour consommer bien d'avoir un compteur intelligent qui va leur dire, qui va leur faire passer certains messages. Ces compteurs intelligents vont générer des données, il va falloir traiter ces données. Ce que j'observe en mettant ce graphique, c'est que beaucoup de ces éléments sont raccordés, pas au réacteur nucléaire, mais au réseau Enedis. Et donc si c'est bien le genre de représentation qui montre que la distribution d'électricité est bien l'acteur central du système de la transition énergétique. Donc je parlais d'incertitudes, une façon de les représenter, les incertitudes, alors à une maille très globale, au maille mondial, j'ai repris un graphique de l'Agence internationale de l'énergie, du World Energy Outlook, qui montre d'où on vient et où on va. En 1990, on consommait 9 milliards de tonnes équivalent de pétrole. 27 ans plus tard, on en consommait 14. Donc, en ayant doublé la production de la richesse mondiale, on n'a pas tout à fait doublé la consommation d'électricité et d'énergie non plus. Donc, il y a dans le passage de 90-2017 de l'efficacité énergétique implicite. Où allons-nous en 2040 ? En 2040, il y a les trois points en vert, bleu et rouge, où la production de richesse mondiale va être multipliée par 5 par rapport au niveau de 90. C'est un graphique en base 100 que vous avez. Ce n'est pas facile à piloter. Vous avez donc 5 fois plus de richesse générée en 2040, mais avec des consommations d'électricité qui sont très variables selon que l'on applique les politiques énergétiques actuelles, qu'on applique celles qu'ils ont votées ou qu'on soit encore plus ambitieux. On a des émissions de carbone qui peuvent être très très, 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 très variables. La transition énergétique, on en a parlé en France, mais il faut savoir que moi je voulais vous dire qu'au niveau des autres pays, ce n'est pas forcément la même définition. Pas du tout même. En France, on voit ce que c'est. En Allemagne, c'est sortir du nucléaire, les énergies 22. En Angleterre, c'est rentrer dans le nucléaire, puisqu'ils construisent une clé point. En Pologne, ils ont beaucoup de charbon, mais ils voudraient bien rentrer dans le nucléaire. Aux États-Unis, la transition énergétique, c'est arrêter le charbon avec du gaz de schiste. Donc, selon les pays, la transition énergétique a plusieurs sens. Et en France, on peut se demander, même si une loi est arrivée, quel est le niveau de priorité qui va être accordé dans les semaines et les mois à venir. Je souhaite que ça soit mis en place, mais on voit bien. Et je suis ravi qu'il y ait autant de sociologues dans la salle, parce que je pensais qu'ils sont tous en train de dépouiller les résultats du grand débat en ce moment. Donc on voit bien que le grand débat pose aussi des questions dans lesquelles on peut se demander où sera pour prioriser la transition énergétique. Mais c'est un petit commentaire au passage. Ce qu'il faut voir aussi, donc je vous ai montré une image globale et mondiale de la question énergétique, on peut l'avoir aussi sous un angle beaucoup plus local. Je vous montre ici des travaux qu'on a fait à la direction de la stratégie dans nos cellules économiques sur l'évolution de la consommation d'électricité ou de la production d'électricité à l'horizon 2035. Et on voit qu'il y a des mailles très fines, ici c'est des mailles communales, vous avez deux régions que vous connaissez, une voisine et ici, où on voit donc par exemple à gauche la pénétration des énergies renouvelables, donc là c'est le cas de l'éolien en Nouvelle-Aquitaine, ou à droite la pénétration des véhicules électriques en taux d'électrification dans la flotte. On voit qu'il y a un territoire n'est pas du tout homogène, mais alors pas du tout, Un des messages de gauche, c'est que sans les réseaux de distribution, il sera difficile d'acheter l'énergie de là où elle est produite à l'endroit où elle est consommée. On en a parlé tout à l'heure. J'ai oublié, on a parlé du grenier qui va alimenter les métropoles. Ça peut représenter par ça. Et par ailleurs, le développement des véhicules électriques, on le voit mieux si on zoome sur une autre région qui est l'Île-de-France. Le développement des véhicules électriques, il n'est pas du tout homogène dans le territoire parce qu'il y a des facteurs qui font que dans les centres, dans les cœurs de ville où il y a par exemple des tramways, des systèmes de transport en commun, on a peut-être moins besoin d'avoir des véhicules tout simplement, que la première couronne des métropoles a besoin d'en avoir davantage, et donc tout ça aura des conséquences sur le réseau qu'il faut savoir modéliser. Et pour conclure, parce que je ne veux pas non plus abuser sur cette fin de journée, j'ai cherché une thématique qui permettrait de représenter une synergie entre les économistes et les sociologues et les historiens. Alors j'en ai trouvé une ici que je vous laisse apprécier. Donc le sujet, c'est l'histoire, donc chère à tous, beaucoup ici, les progrès techniques avec Linky, par exemple, la sociologie qui a été abordée aujourd'hui, et moi je voudrais vous parler d'économie, d'international et de politique. Alors pour représenter ça, il y a un indicateur qui marche pas mal, qui est, donc si on prend l'histoire et qu'on essaie de la représenter sur un axe temporel avec un début à l'aube de l'ère industrielle, on peut essayer de représenter la richesse produite par le système énergétique. Et là, il y a un facteur qui s'appelle l'intensité énergétique qui se mesure en tonnes équivalent pétrole par unité de PIB générée, c'est-à-dire que ici, 0,6, ça veut dire je consomme 0,6 tonnes de pétrole pour générer 1 000 $ de PIB. Voilà ce que ça veut dire, cet indicateur. Comment cet indicateur a évolué dans le temps? Il a évolué avec un démarrage à 0,2 tonnes de pétrole pour générer 1 000 $ de PIB en 1820. Et il a cru, avec l'effacement, avec la disparition de la force musculaire, on a remplacé les hommes qui faisaient tourner les machines et les chevaux qui faisaient tourner les machines par la vapeur. Et donc on a vu que la vapeur était produite par le charbon. Alors on a ramené le charbon équivalent pétrole. Et donc on voit que avec l'ère industrielle, on voit une croissance de la consommation d'énergie pour générer de la richesse. Et puis on arrive à un plateau en 1880, qui correspond à la maîtrise des technologies des machines, donc avec des machines qui avaient moins de pertes en vapeur, et puis également un besoin de compétitivité avec un début de globalisation de l'économie, où les gens qui avaient des machines concurrentes cherchaient à avoir la machine la plus efficiente, et donc on a essayé d'améliorer les performances énergétiques des machines, et on voit qu'on est parti sur une tendance avec une amélioration de l'efficacité qui se poursuit, qui descend continuellement, à part quelques aléas qui sont ceux des guerres. On voit bien 1914, la guerre de 1918 et la guerre de 1939-40 qui ont généré des effets de mer. Alors tout ça, cette histoire, je la raconte en Angleterre. Dans d'autres pays, l'ère industrielle a démarré à d'autres moments, par exemple. Aux États-Unis, ça a démarré un peu plus tard et on a monté un pic un peu plus élevé pour différentes raisons. Une des raisons, c'est le fait qu'il y avait plus d'énergie disponible dans le sol américain. La deuxième, c'est que culturellement, on faisait peut-être un peu moins attention à ce qu'on consommait. Il y avait une sensibilité, donc là, il y a des aspects sociologiques qui apparaissent, en plus des aspects économiques et technologiques, il y a un aspect culturel et sociologique qui intervient. On voit par exemple que le Japon, qui n'a pas de ressources naturelles ou très peu, a monté moins haut et a démarré plus tard. Par contre, la Chine s'en est pas privée et la Russie est montée très très haut avec une période où il y a des pétroliers, où on n'avait pas eu beaucoup accès aux données qui étaient produites. Donc tout ça pour dire qu'on peut également combiner des aspects sociologiques, culturels, pour voir comment on évolue à l'échelle mondiale, et également il y a une autre dimension qui est la globalisation des économies avec une machine qui est inventée au Japon. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas utilisée en Chine non plus. Donc c'est cet aspect global qui intervient. Voilà ce que je voulais montrer comme genre de message pour dire tout ça. Finalement, on travaille tous ensemble sur le même sujet. Autre message qui n'est pas politiquement correct, et je ne parle pas en tant qu'analyste, c'est l'homo economicus, il sera réactif si il voit un signal prix lui parvenir. Et donc, je rejoins M. Mouillet aussi sur l'idée que si le prix n'apparaît pas, s'il n'est pas sensible au prix, si le prix est trop faible, c'est un message que tous les économistes disent, je suis obligé de le dire, il faut que le prix monte, et c'est vraiment nécessaire, il a besoin de monter, il y a des solutions, ça a été dit, comme chez l'énergie, il y a d'autres solutions, mais si on ne sent pas le prix, comme l'exemple qui était donné sur la machine à laver, si ce qui coûte le plus cher, c'est la lessive ou l'amortissement de la machine, qui n'a pas de composante énergie, évidemment, il n'y aura pas de signal prix. S'il n'y a pas de prix assez cher, on ne va pas rénover les bâtiments, on ne va pas isoler les maisons, on n'arrivera pas aux 500 000 rénovations qu'on veut faire dans différents niveaux français. C'est important. Ce n'est pas un signal facile à vendre, on a besoin, et c'est le rôle de nos institutions et c'est le rôle des académies d'en parler. Et je voudrais conclure par une petite image qui montre qu'un économiste historien a été décoré par notre association, Antoine Missemer, auquel Marcel Boiteux a remis il y a un an ce prix. Et puis pour conclure, je cite également notre personne, si vous avez un manuscrit de Telling, qui est donc un grand historien et économiste qui parle de son voyage avec Marcel Boiteux, qui a été cité aujourd'hui. Donc c'est notre père à tous, je voulais en parler aujourd'hui. Et je vous invite à nous rejoindre, à nous suivre, aux deux étudiants qui sont là, au moins vous intéresser aux travaux des économistes aussi, qui peuvent être complémentaires de ceux des historiens. Merci bien. Merci. Bonne soirée. Il y a un anniversaire pour 3 ans.
Oui, anniversaire à nouveau, effectivement. Donc, à savoir, merci beaucoup pour cette brillante conclusion avec, au fond, une triple conscience. Donc, Enedis, Association internationale des économistes, le citoyen et l'interdisciplinarité. Donc, et surtout la référence à notre père, grand-père, arrière-grand-père, donc Marcel Boiteux. Donc, le temps des super conclusions est passé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont résisté, qui ont fait preuve de résilience. Donc, aux sociologues, historiens, acteurs, ingénieurs, participants, parties prenantes, représentants de la Fondation, qui restent ô combien mobilisés en position en veilleur attentif. Merci beaucoup à toutes et à tous, notamment à tous ceux qui se sont déplacés de contrées françaises lointaines, même s'il n'y a pas de zone blanche, notamment de dessertes ferroviaires. Et puis, on vous donne rendez-vous, comme l'a dit Christophe Baudry, dans des travaux de recherche-action sur le terrain et dans de nouveaux événements. D'abord, le prochain événement, c'est le 20 et le 21 septembre, donc dans un lieu, on ne sait pas encore où, ça c'est l'élément mystère, sur un colloque surtout d'historiens, associant plusieurs parties prenantes sur la trajectoire des énergies, donc de Bordeaux, où la partie historique, historienne, sera la plus importante. Donc, merci beaucoup à nos mécènes, merci beaucoup à l'Académie Université de Bordeaux, et bonne fin de journée.